Cette nuit-là, Gilman revit la lumière violette. Il avait entendu dans son rêve des bruits de griffes et de dents rongeuses dans les cloisons, et il lui sembla qu'un maladroit cherchait à tâtons le loquet. Puis, il vit approcher sur le tapis la vieille femme et le petit monstre velu. Le visage de la harpie rayonnait d'une jubilation inhumaine, et la petite infection aux dents jaunes gloussait en désignant ironiquement au bout de la chambre Elwood qui dormait à poing fermé dans l'autre lit. Paralysé de terreur, Gilman n'eut pas même la force de crier. Comme la première fois, la hideuse mégère le saisit aux épaules, le tira de ses draps et le jeta dans l'espace vide. De nouveau, l'infini hurlant des abîmes crépusculaires étincela devant lui. Mais une seconde plus tard, il se vit dans une ruelle inconnue, sombre, boueuse et puante, dont les vieilles maisons aux murs pourrissants se dressaient de tous les côtés. L'homme noir était là, vêtu de sa robe, tel qu'il l'avait vu sous le toit pointu dans l'autre rêve, tandis que la vieille, plus proche, grimaçait avec un geste impérieux. Brown Jenkins, pris d'une sorte d'affectueux enjouement, se frottait aux chevilles de l'homme noir, en grande partie dissimulée par la boue épaisse. L'homme noir montra sans un mot une entrée obscure qui s'ouvrit sur la droite. La mégère grimaçante s'y engouffra, traînant Gilman à sa suite par sa manche de pyjama. Il y eut un escalier nauséabond au craquement sinistre, où la vieille semblait répandre une vague lueur violette. Et enfin, une porte donnant sur un palier. La sorcière tâta le loquet, ouvrit la porte, et faisant signe à Gilman de l'attendre, disparut dans les ténèbres. L'oreille hypersensible du jeune homme perçut une affreuse plainte étouffée, et presque aussitôt, la mégère sortit de la pièce, portant une petite forme inerte qu'elle tendit au rêveur comme pour lui ordonner de la porter. La vue de cette forme et l'expression de son visage rompirent le sortilège. Trop hébété encore pour crier, il se précipita imprudemment dans l'escalier fétide et dehors dans la boue. Seul l'arrêta l'homme noir, qui attendait et le prit à la gorge. Avant de perdre connaissance, il entendit atténué le gloussement aigu du petit monstre au croc acéré. Le matin du 29, Gilman s'éveilla dans un maelstrom d'horreur. Au moment même où il ouvrit les yeux, il comprit qu'il se passait une chose effroyable, car il était à nouveau dans sa vieille mansarde au plafond et au mur oblique, affalé sur le lit maintenant défait. Sa gorge était inexplicablement douloureuse, et quand il fit effort pour s'asseoir, il constata avec une terreur grandissante que ses pieds et le bas de son pyjama étaient souillés de boue séchée. Sur le moment, ses souvenirs restèrent désespérément brumeux, mais il ne put douter d'avoir marché dans son sommeil. Elwood était trop profondément endormi pour l'entendre et l'arrêter. Le plancher portait de confuses empreintes boueuses, mais bizarrement, elles n'arrivaient pas jusqu'à la porte. Plus Gilman les considérait, plus il les trouvait étranges. Car outre les siennes, qu'il reconnaissait, il en était de plus petites, presque rondes, telles que pourraient en faire les pieds d'un grand siège ou d'une table, sauf que la plupart avaient tendance à se diviser par moitié. Il y avait encore de curieuses traces boueuses, celles de pattes de rat qui sortaient d'un nouveau trou et y rentraient. Gilman fut frappé de stupeur et craignit de devenir fou lorsque, gagnant le seuil en chancelant, il s'aperçut qu'il n'y avait aucune trace de boue dans le couloir. À mesure qu'il se rappelait son rêve hideux, il s'affolait davantage, et les lugubres litanies de Joe Mazurevitch deux étages en dessous ajoutaient à son désespoir. Descendant chez Elwood, il le tira enfin de son sommeil et lui raconta dans quelle situation il s'était retrouvé, mais son hôte n'avait aucune idée de ce qui avait pu se passer. Où Gilman était-il allé? Comment était-il rentré dans sa chambre sans laisser de traces dans le couloir? Et comment les empreintes boueuses qui évoquaient des pieds de meubles s'étaient-elles mêlées aux siennes dans la mansarde? Cela dépassait l'imagination. Il y avait encore ces marques sur sa gorge, sombres, livides, comme s'il avait voulu s'étrangler. Il y posa les mains, mais elles n'y correspondaient pas même approximativement. Pendant qu'il parlait, Desrochers passa pour dire qu'il avait entendu un fracas épouvantable au-dessus de sa tête en pleine nuit. Non, il n'y avait eu personne dans l'escalier après minuit, mais juste avant, il avait surpris des pas légers dans la mansarde et une descente furtive qui ne lui avait pas plu. Il ajouta que cette période de l'année était très néfaste à Arkham. Le jeune gentleman ferait sûrement mieux de porter le crucifix que Joe Mazurevitch lui avait donné. Même de jour, on n'était pas en sécurité, car après l'aube, il y avait eu des bruits étranges dans la maison, surtout le son grêle d'un pleur d'enfant vite étouffé. Gilman suivit machinalement les cours ce matin-là, sans apporter aucune attention soutenue à ses études. Dans l'expectative, en proie à une atroce appréhension, il semblait s'attendre à recevoir un coup mortel. À midi, il déjeunait au foyer de l'université quand, attendant le dessert, il ramassa un journal sur le siège voisin. Mais il oublia le dessert. Un article en première page le laissa sans force, le regard fou, à peine capable de régler son addition et de regagner en vacillant la chambre d'Elwood. Il s'était produit un mystérieux enlèvement la nuit précédente dans le passage Horn, et l'enfant de 2 ans d'une blanchisseuse un peu simple nommée Anastasia Volaïchko avait complètement disparu. La mère, disait-on, le redoutait depuis un certain temps, mais les raisons qu'elle donnait de ses craintes étaient si grotesques que personne ne les prit au sérieux. Elle prétendait avoir vu Brown Jenkin autour de la maison à plusieurs reprises depuis le début de mars, et elle avait compris, par ses grimaces et ses gloussements, que le petit Ladislas était marqué pour le sacrifice de l'épouvantable sabbat de la nuit de Valpurgis. Elle avait demandé à sa voisine, Marie Xanek, de venir coucher dans la chambre pour essayer de protéger l'enfant, mais Marie n'avait pas osé. Elle ne pouvait pas en parler à la police, qui ne croyait jamais ce genre de choses. Chaque année, aussi loin que remontassent ses souvenirs, des enfants avaient disparu de la même manière, et son ami Pete Stovaki ne l'aiderait pas parce qu'il voulait se débarrasser de l'enfant de toute façon. Mais ce qui donna des sueurs froides à Gilman fut la déclaration de 2 fêtards qui étaient passés devant l'entrée du passage aussitôt après minuit. Ils reconnaissaient qu'ils étaient ivres, mais juraient tous deux avoir vu un trio bizarrement vêtu entrer furtivement dans le passage obscur. Il y avait, disait-il, un immense nègre en robe, une petite vieille en guenilles et un jeune blanc en pyjama. La vieille traînait le jeune homme, tandis qu'au pied du nègre, un rat apprivoisé se frottait en allant et venant dans la boue brune. Gilman demeura assis tout l'après-midi sous le choc, et Elwood, qui avait entre-temps vu les journaux et en avait tiré de terribles conjectures, le trouva ainsi en rentrant. Cette fois, il ne pouvait douter ni l'un ni l'autre qu'un piège hideux fût sur le point de se refermer sur eux. Entre les fantasmes du cauchemar et les réalités du monde objectif, il se nouait une relation monstrueuse, inimaginable, et seule une prodigieuse vigilance pouvait encore en prévenir les plus sinistres effets. Gilman devrait tôt ou tard consulter un spécialiste, mais le moment était mal choisi, alors que tous les journaux étaient pleins de cette affaire de rapt. Ce qui s'était produit réellement restait un mystère insupportable, et pendant un certain temps, Gilman et Elwood échangèrent à voix basse les théories les plus extravagantes. Gilman avait-il inconsciemment réussi au-delà de ses espérances dans ses recherches sur l'espace et ses dimensions? S'était-il effectivement glissé hors de notre monde, jusqu'à des points insoupçonnés et inconcevables? En quel lieu, si lieu il y avait, était-il allé pendant ces nuits d'extranéité démoniaque? Les grondants abîmes crépusculaires, le flanc vert de la colline, la terrasse brûlante, le magnétisme des étoiles, l'ultime tourbillon noir? L'homme noir, la ruelle boueuse et l'escalier, la vieille sorcière et l'horreur velue au long croc, le conglomérat de bulles et le petit polyèdre, l'étrange coup de soleil, le poignet blessé, l'énigmatique figurine, les pieds boueux, les marques sur la gorge, les contes et les frayeurs des étrangers superstitieux. Que signifiait tout cela? Jusqu'à quel point cette affaire relevait-elle des lois de la raison? Ils ne dormirent ni l'un ni l'autre cette nuit-là. Mais le lendemain, ils manquèrent tous deux les cours et restèrent à somnoler. C'était le 30 avril, et avec le crépuscule viendrait le temps de l'infernal sabbat que redoutaient tous les étrangers et les vieillards crédules. Mazurevitch rentra à 6 heures, annonçant ce qu'on chuchotait à la filature. Les réjouissances de Valpurgis se tiendraient dans le ravin obscur, derrière Meadow Hill, là où se dresse la vieille pierre blanche sur une terre étrangement dépourvue de végétation. Certains avaient même averti la police qu'il fallait chercher là le petit Volaïchko disparu, mais ils ne pensaient pas qu'on ferait quoi que ce soit. Joe insista pour que l'infortuné jeune gentleman porte son crucifix à chaîne de nickel, et Gilman le mit en le laissant pendre sous sa chemise pour faire plaisir aux gars. Tard le soir, les 2 jeunes gens somnolaient dans leur fauteuil, bercés par la prière rythmée du monteur de métier au rez-de-chaussée. Gilman écoutait dans son demi-sommeil, et son ouïe d'une acuité surnaturelle semblait à l'affût de certains murmures ténus et redoutables derrière les bruits de la vieille maison. Des souvenirs morbides du Necronomicon et du Livre Noir lui revinrent à l'esprit, et il se surprit à se balancer aux cadences infâmes qui marquaient, disait-on, les plus noires cérémonies du sabbat, et dont l'origine était étrangère au temps et à l'espace qui nous sont accessibles. Il comprit bientôt ce qu'il essayait d'entendre, la psalmodie diabolique des officiants au loin dans la vallée noire. Comment savaient-ils si bien ce qu'ils attendaient? Comment connaissaient-ils le moment où Nahab et son acolyte devaient leur présenter la coupe débordante qui viendrait après le coq et le bouc noir? Voyant qu'Elwood s'était endormi, il voulut l'appeler pour le réveiller. Mais quelque chose lui ferma la bouche. Il n'était plus son maître. Aurait-il donc signé le livre de l'homme noir? Alors, son oreille fiévreuse, hypersensible, distingua les notes lointaines portées par le vent. Elles franchissaient des milles et des milles de collines, de champs et de ruelles, mais il les reconnaissait pourtant. Les feux devaient être allumés, les danses avaient dû commencer. Comment pourrait-il ne pas y aller? Qu'était-ce donc qu'il avait pris au filet? Les mathématiques? Le folklore? La maison? La vieille Kezia? Brown Jenkins? Et il vit à présent qu'un nouveau trou à rats s'ouvrait dans le mur, près de son lit. Dominant la psalmodie lointaine et la prière proche de Joe Mazurevitch, un autre son lui parvint, un grattement discret mais résolu venant des cloisons. Il souhaita que les lampes électriques ne s'éteignent pas. Puis il vit au bord du trou le petit visage barbu armé de crocs, le maudit petit visage dont il saisit enfin l'abominable, l'ironique ressemblance avec la vieille Kezia. Et il entendit tâtonner à la porte. Le hurlant abîme crépusculaire étincela devant lui. Il se sentit impuissant dans l'étreinte informe du conglomérat de bulles irisées. En avant, le petit polyèdre kaléidoscopique filait à vive allure, et dans le vide bouillonnant, un développement et une accélération du vague système tonal semblèrent annoncer un paroxysme indescriptible et insoutenable. Il pressentait ce qui allait arriver, l'explosion monstrueuse des chants valpurgiens, qui concentraient dans leur sonorité cosmique toute l'effervescence primitive, fondamentale, de l'espace-temps qui couvre derrière les sphères de matières amoncelées et jaillit toutefois en réverbération rythmique qui pénètre atténuée tous les niveaux d'être et confère partout dans les mondes une terrible signification à certaines époques redoutées. Mais tout cela disparut en un instant. Il se retrouva dans l'espace étroit au toit pointu illuminé de violet, avec son plancher oblique, les bibliothèques basses de livres anciens, la table et le banc, les objets bizarres et le gouffre triangulaire à un bout. Sur la table était étendue une petite forme blanche, un enfant nu et inconscient. Tandis que de l'autre côté, la monstrueuse vieille, le regard mauvais, portait dans sa main droite un couteau luisant au manche singulier, et de sa main gauche, une coupe en métal clair, de proportions insolites, couverte de dessins curieusement ciselés et munie de deux fines anses latérales. Elle psalmodiait d'une voix rauque un rituel dont Gilman ne put comprendre la langue, mais qui rappelait un passage cité, non sans réserve, dans le Necronomicon. Comme la scène devenait plus nette, il vit la mégère se pencher en avant pour lui tendre la coupe vide par-dessus la table, et, incapable de contrôler ses propres mouvements, il se pencha à son tour, la saisit à deux mains et remarqua ce faisant sa relative légèreté. Au même moment, la figure répugnante de Brown Jenkins grimpa sur sa gauche au bord du sombre gouffre triangulaire. La sorcière alors lui fit signe de tenir la coupe dans une certaine position, tandis qu'elle levait l'énorme et hideux couteau au-dessus de la petite victime blanche, aussi haut que sa main droite pouvait se tendre. Le monstre velu au long croc se mit à poursuivre en gloussant le rituel inconnu, la sorcière croassant des réponses ignobles. Gilman sentit une répulsion intense, torturante, l'atteindre malgré la paralysie de son esprit et de ses facultés d'émotion. La coupe légère trembla sous ses doigts. Une seconde plus tard, le mouvement du couteau sur le point de s'abattre rompit enfin le sortilège. Il lâcha la coupe, qui rendit en tombant un son de cloche, et se précipita comme un fou, les mains en avant, pour empêcher le crime monstrueux. En un instant, il remonta le plancher oblique en contournant la table et arracha le couteau aux griffes de la vieille. Il le jeta avec fracas par-dessus le bord de l'étroit gouffre triangulaire. Mais un instant de plus suffit à renverser la situation. Les griffes meurtrières se refermaient sur sa gorge, tandis que le visage desséché était convulsé par une fureur démente. Sentant la chaîne du modeste crucifix lui scier le cou, il se demanda, dans le danger qui le menaçait, quel effet la vue de l'objet lui-même produirait sur l'infernale créature. Elle était d'une force surhumaine, mais bien qu'elle continuât de l'étrangler, il réussit à saisir sous sa chemise et à brandir l'emblème de métal après avoir brisé la chaîne. En le voyant, la sorcière, manifestement prise de panique, relâcha son étreinte assez longtemps pour donner à Gilman une chance de la rompre entièrement. Il libéra son cou des griffes d'acier et aurait traîné la mégère jusqu'au gouffre si elle n'avait pas repris de nouvelles forces pour l'étrangler de nouveau. Cette fois, elle décida de lui rendre l'appareil en s'attaquant à son cou. Avant qu'elle pût prévenir son geste, il lui passa la chaîne du crucifix autour de la gorge et il l'eut bientôt serré suffisamment pour lui couper le souffle. Pendant qu'elle se débattait dans les dernières convulsions, il se sentit mordu à la cheville. Brown Jenkins était venu à la rescousse. D'un violent coup de pied, il envoya l'infection par-dessus le bord du gouffre et l'entendit gémir ronde ses houes dans les profondeurs. Ignorant s'il avait tué ou non la vieille sorcière, il l'abandonna sur le plancher où elle était tombée. Alors, en se retournant, il vit sur la table ce qui faillit lui faire perdre ce qui lui restait de raison. Brown Jenkins, avec sa nature coriace et quatre petites mains d'une dextérité diabolique, n'était pas resté inactif pendant que la sorcière l'étranglait. Tous les efforts avaient été vains. Ce qu'il avait évité en détournant le couteau de la jeune poitrine, les crocs jaunes de la bête maudite l'avaient fait au poignet de la victime. Et la coupe, tout à l'heure sur le plancher, était pleine maintenant, près du petit corps sans vie. Dans son délire onirique, Gilman entendit la barbare, l'infernale psalmodie du sabbat, venant d'une distance infinie, et il sut que l'homme noir, sans doute, était arrivé. Des souvenirs confus se mêlant aux mathématiques, il crut détenir dans son subconscient les angles dont il avait besoin pour revenir au monde normal, seul et pour la première fois par ses propres moyens. Il était certain de se trouver dans le grenier condamné depuis toujours au-dessus de sa chambre, mais il doutait fort de pouvoir jamais s'échapper par le plancher oblique ou l'issue jadis barricadée. D'ailleurs, fuir un grenier de rêve ne le mènerait-il pas simplement dans une maison de rêve, projection anormale du lieu réel qu'il cherchait? Il était absolument confondu de la relation entre rêve et réalité dans tout ce qu'il vivait. Le passage à travers les abîmes confus allait être effrayant, car il y résonnerait la cadence valpurgienne et il lui faudrait entendre enfin la pulsation cosmique jusqu'alors voilée qui lui inspirait une crainte mortelle. À présent déjà, il discernait un ébranlement profond, monstrueux, dont il ne soupçonnait que trop le rythme. Au temps du sabbat, elle montait toujours et gagnait les mondes pour appeler les initiés aux rites innommables. La moitié des psalmodies du sabbat était modelée sur ce battement vaguement perçu qu'aucune oreille terrestre ne pourrait supporter dans l'entière révélation de son ampleur. Gilman se demandait aussi s'il devait se fier à son instinct pour le ramener dans la bonne région de l'espace. Comment être sûr de ne pas atterrir sur ce flanc de colline éclairée de vert, d'une planète lointaine, sur la terrasse en mosaïque au-dessus de la cité de monstres à tentacules, quelque part au-delà de la galaxie, ou dans la spirale des noirs tourbillons de ce vide ultime du chaos où règne l'indifférent Azathoth, sultan démoniaque. Au moment même où il plongeait, la lumière violette s'éteignit, le laissant dans une obscurité impénétrable. La sorcière, la vieille Kezia, Nahab, lui signifiait ainsi sa mort. Et, mêlée à la psalmodie lointaine du sabbat et au gémissement de Brown Jenkins en bas dans le gouffre, il crut entendre une autre plainte, plus farouche, montée de profondeurs inconnues. Joe Mazurevitch, les prières contre le chaos rampant devenaient un hurlement d'inexplicable triomphe. Des mondes d'une réalité sardonique venaient heurter les tourbillons du rêve fébrile. Iya, Shub Nigurat, le bouc aux mille chevreaux. On retrouva Gilman sur le plancher de sa vieille mansarde aux angles bizarres, longtemps avant l'aube, car le terrible cri avait fait accourir aussitôt Desrochers, Chionsky, Dombrowski et Mazurevitch, et avait même réveillé Elwood profondément endormi dans son fauteuil. Il était vivant, les yeux ouverts, le regard fixe, apparemment inconscient. Sa gorge portait les empreintes de deux mains meurtrières et sa cheville gauche une affreuse morsure de rat. Son vêtement était horriblement froissé, et le crucifix de Joe avait disparu. Elwood tremblait, n'osant pas même imaginer quelle nouvelle forme avait pu prendre le somnambulisme de son ami. Mazurevitch semblait hébété à cause d'un signe qui lui était venu, disait-il, en réponse à ses prières, et il multiplia frénétiquement les signes de croix en entendant crier et gémir un rat derrière la cloison oblique. Quand le rêveur fut installé sur son lit dans la chambre d'Elwood, on envoya chercher le docteur Malkowski, un praticien du quartier qui ne répétait pas les histoires si elles risquaient d'attirer des ennuis, et il fit à Gilman deux piqûres qui le détendirent en une sorte de somnolence presque naturelle. Dans la journée, le malade reprit par moments conscience et fit à voix basse à Elwood le récit décousu de son dernier rêve. Ce fut un effort pénible, et dès le début, apparut un nouveau fait déroutant. Gilman, dont les oreilles avaient tout récemment manifesté une sensibilité exceptionnelle, était maintenant complètement sourd. Le docteur Malkowski, rappelé d'urgence, apprit à Elwood que les deux tympans étaient crevés, comme s'ils avaient subi le choc d'un son formidable, dont l'intensité dépassait les notions et la résistance humaine. Comment un son pareil avait-il pu être entendu au cours des heures précédentes, sans réveiller toute la vallée du Miskatonic? Cela dépassait l'honnête praticien. Elwood écrivit sur un papier ce qu'il avait à dire, de sorte que la conversation continua sans trop de difficultés. Ne sachant que faire ni l'un ni l'autre dans une pareille confusion, ils conclurent qu'il valait mieux y songer le moins possible. Ils étaient d'accord cependant pour quitter cette vieille maison maudite aussitôt qu'ils le pourraient. Les journaux du soir parlèrent d'une descente de police juste avant l'aube dans un ravin derrière Meadow Hill, où étaient réunis d'étranges noctambules, et rappelèrent que la pierre blanche y faisait l'objet depuis des siècles d'un respect superstitieux. Personne n'avait été pris, mais parmi les fugitifs dispersés, on avait aperçu un nègre gigantesque. Dans une autre rubrique, on déclarait qu'aucune trace n'avait été retrouvée du petit disparu, Ladislas Vlejko. L'horreur suprême survint cette nuit-là. Elwood ne l'oublierait jamais, et il dut quitter l'université jusqu'à la fin du trimestre à cause de la dépression nerveuse qui en résulta. Toute la soirée, il avait cru entendre les rats dans les cloisons, mais sans y faire grande attention. Puis, longtemps après que Gilman et lui se furent couchés, des cris atroces s'élevèrent. Elwood sauta du lit, alluma l'électricité et se précipita vers le lit de son hôte. Celui-ci émettait des sons véritablement inhumains, comme s'il était en proie à une torture indescriptible. Il se tordait sous les draps et une large tache rouge commençait à apparaître sur les couvertures. Elwood osa à peine le toucher, mais peu à peu les cris et les convulsions s'apaisèrent. À ce moment, Dombrowski, Choinski, Desrochers, Mazurevitch et le locataire du dernier étage étaient massés sur le seuil et le propriétaire avait envoyé sa femme retéléphoner au docteur Malkowski. Tout le monde hurla lorsque la forme d'un gros rat bondit soudain de sous les draps ensanglantés et fila à l'autre bout du plancher dans un trou voisin fraîchement ouvert. Quand le médecin arriva et entreprit de retirer ses effroyables couvertures, Walter Gilman était mort. Il serait barbare de faire plus que suggérer ce qui avait tué Gilman. C'était pratiquement un tunnel qui traversait son corps et son cœur avait été dévoré. Dombrowski, hors de lui devant l'échec de ses efforts incessants pour empoisonner les rats, renonça à toute idée de bail, et moins d'une semaine après, il avait déménagé avec tous ses plus vieux locataires dans une maison miteuse, mais moins ancienne, de Walnut Street. Le plus dur, pendant quelque temps, fut de calmer Joe Mazurevitch, car le monteur de métier qui broyait du noir était incapable de rester sobre et ne faisait que gémir et marmonner des histoires d'horreur et de fantômes. Il semble que pendant cette dernière nuit atroce, Joe se soit penché pour regarder les traces de pattes sanglantes qui menaient du lit de Gilman au trou de rat voisin. Sur le tapis, elles étaient très confuses, mais le plancher était à nu entre le bord du tapis et la plinthe. Là, Mazurevitch avait découvert une chose monstrueuse, du moins il le croyait, car personne ne partageait tout à fait son avis, malgré l'indéniable singularité des empreintes. Les traces sur le parquet étaient sans aucun doute extrêmement différentes des empreintes normales d'un rat, mais même Choinski et Desrochers refusèrent d'admettre qu'elles ressemblaient à celles de quatre minuscules mains humaines. La maison ne fut plus jamais louée. Dès que Dombrowski l'eut quittée, la chape de l'irrémédiable abandon commença de s'étendre sur elle. Car les gens l'évitaient à la fois pour son ancienne réputation et à cause de sa nouvelle puanteur. Peut-être la mort au rat de l'ancien propriétaire avait-elle fini par agir, mais peu après son départ, l'endroit devint une gêne pour le voisinage. Des fonctionnaires de la santé découvrirent que l'odeur venait des espaces clos, au-dessus et à côté de la mansarde de l'Est, et s'accordèrent à penser que le nombre de rats morts devait être considérable. Ils conclurent néanmoins qu'on perdrait son temps à ouvrir le toit pour désinfecter les recoins depuis longtemps condamnés. Car l'infection serait bientôt dissipée, et l'on n'était guère délicat dans le quartier. En fait, il avait toujours couru de vagues rumeurs sur des puanteurs inexpliquées tout en haut de la maison de la sorcière, aussitôt après la veille du 1er mai et de la Toussaint. Les voisins, en ronchonnant, acceptèrent le statu quo. Mais l'odeur fétide n'en était pas moins un argument supplémentaire contre la maison. Finalement, elle fut condamnée comme impropre à l'habitation par l'inspecteur des bâtiments. Les rêves de Gilman et les incidents qui les accompagnèrent n'ont jamais été expliqués. Elwood, dont les réflexions sur toute l'affaire vous feraient parfois perdre la tête, revint à l'université l'automne suivant et obtint son diplôme en juin. Il constata qu'on parlait beaucoup moins de spectres en ville, et en effet, malgré certaines rumeurs de ricanements fantomatiques dans la maison déserte, qui durèrent presque autant que le bâtiment lui-même, on ne compta plus à mi-voix aucune autre apparition de la vieille Kezia, ni de Brown Jenkins après la mort de Gilman. C'est plutôt une chance qu'Elwood ne se soit pas trouvé à Arkham cette dernière année, où certains faits réveillèrent brusquement les racontars locaux au sujet des horreurs passées. Bien sûr, il en entendit parler un peu plus tard, et souffrit d'indicibles tourments en de sombres et incertaines conjectures. Mais cela même était moins cruel que la présence concrète des choses et ce qu'il aurait pu voir. En mars 1931, une tempête détruisit le toit et la grande cheminée de la maison de la sorcière, alors inoccupée, de sorte qu'un désordre de briques brisées, de bardeaux noircis et moussus, de planches et de poutres pourries s'effondra dans le grenier et en défonça le plancher. Tout l'étage au-dessous fut obstrué de débris, mais personne ne prit la peine de toucher à ce fatras jusqu'à l'inévitable démolition de la bâtisse délabrée. Cette dernière étape survint en décembre de la même année, et ce fut avec le déblaiement de l'ancienne chambre de Gilman par des ouvriers inquiets et réticents que les bavardages commencèrent. Parmi les décombres qui avaient crevé l'ancien plafond oblique, plusieurs choses alertèrent les ouvriers, qui prévinrent la police. Par la suite, la police à son tour prévint le coroner et plusieurs professeurs de l'université. Il y avait des os, sérieusement écrasés et brisés, mais manifestement humains, dont l'âge visiblement récent s'opposait de manière inexplicable à l'époque reculée où leur seule cachette possible, la soupente basse au plancher oblique, avait dû être fermée à toute présence humaine. Le médecin légiste déclara que certains appartenaient à un jeune enfant, alors que d'autres, mêlés à des lambeaux pourris d'étoffe brunâtre, étaient ceux d'une femme âgée, de petite taille et voûtée. Un tri minutieux des débris révéla aussi beaucoup de minuscules os de rats pris dans l'effondrement, ainsi que d'autres plus anciens rongés par de petits crocs d'une façon qui suscitait parfois bien des débats et des réflexions. On découvrit d'autres objets, notamment les fragments confondus de beaucoup de livres et de papiers, mêlés à une poussière jaunâtre résultant de la désintégration de volumes encore plus vieux. Tous, sans exception, semblaient avoir trait à la magie noire, sous ses formes les plus évoluées et les plus horribles. La date assurément récente de certains documents reste toujours un mystère aussi insoluble que celui des derniers ossements humains. Plus énigmatique encore est la parfaite homogénéité de l'écriture archaïque, indéchiffrable, découverte sur une large gamme de papiers dont l'état et le filigrane indiquent des différences de datation de 150 à 200 ans. Aux yeux de certains, cependant, le plus mystérieux de tout est la diversité des objets totalement inexplicables, dont les formes, les matières, les styles de fabrication et les usages défiaient toute conjecture, et qu'on avait trouvé épars au milieu des débris, naturellement plus ou moins abîmés. L'un d'eux, qui intéressa vivement plusieurs professeurs de miskatonic, est une horreur très endommagée, assez semblable à l'étrange figurine donnée par Gilman à l'université, mais plus grande, faite d'une singulière pierre bleuâtre au lieu de métal et munie d'un socle aux angles insolites et aux hiéroglyphes incompréhensibles. Archéologues et anthropologues essaient encore aujourd'hui d'expliquer les bizarres dessins ciselés sur une coupe écrasée en métal léger dont l'intérieur portait, quand on la trouva, de sinistres taches brunes. Les étrangers et les grands-mères crédules sont tous inépuisables au sujet du crucifix de nickel à la chaîne brisée mêlée aux débris et dans lequel Joe Mazurevitch reconnut en tremblant celui qu'il avait donné au pauvre Gilman des années plus tôt. Certains croient que ce crucifix a été traîné par les rats dans le grenier condamné, tandis que d'autres pensent qu'il a toujours été sur le plancher dans un coin de l'ancienne chambre de Gilman. D'autres encore, y compris Joe lui-même, ont des théories trop invraisemblables et extravagantes pour un jugement sensé. Quand on abattit le mur oblique dans la chambre de Gilman, on s'aperçut que l'espace triangulaire autrefois fermé entre cette cloison et le mur nord de la maison contenait beaucoup moins de gravats, même proportionnellement à sa taille, que la chambre proprement dite. Mais on y trouva une épouvantable couche de matière plus ancienne qui paralysa d'horreur les démolisseurs. Bref, le sol était un véritable ossuaire fait de squelettes de petits enfants. Certains assez récents, mais d'autres remontant par des degrés infinis jusqu'à une telle ancienneté qu'ils tombaient presque en poussière. Sur cette profonde strate osseuse, reposait un couteau de grande taille, visiblement très ancien, et d'un dessin grotesque, exotique et surchargé, au-dessus duquel s'entassaient les débris. Au milieu de cet amas, coincé entre une planche tombée et quelques briques cimentées provenant des ruines de la cheminée, un objet devait susciter à Arkham plus de troubles, de terreurs dissimulées et de commentaires ouvertement superstitieux que tout ce qu'on avait découvert dans la maudite maison hantée. C'était le squelette à demi écrasé d'un énorme rat, sans doute malade, dont les anomalies de forme sont toujours un objet de discussion et l'occasion aussi d'une singulière réserve parmi les membres de la section d'anatomie comparée de Miskatonic. On divulgua très peu de choses au sujet de ce squelette, mais les ouvriers qui l'avaient découvert parlaient à voix basse d'un air horrifié des longs poils brunâtres qui l'accompagnaient. Les os des pattes minuscules, dit-on, dénote des facultés de préhension plus caractéristiques d'un petit singe que d'un rat. Tandis que le crâne au féroce croc jaune est absolument anormal, car vu sous certains angles, il paraît la caricature monstrueuse d'un crâne humain en miniature. Les ouvriers se signèrent avec épouvante quand ils exhumèrent cette abomination. Mais plus tard, ils brûlèrent des cierges en témoignage de gratitude à l'église Saint-Stanislas, parce que ce gloussement suraigu de fantôme, ils étaient sûrs de ne plus l'entendre jamais. C'était « La maison de la sorcière » de Howard Phillips Lovecraft.